Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Dernier temps de notre série que nous consacrons au monde agricole. Lundi, nous parlions du malaise paysan, mardi de la transition écologique, mercredi de redistribution des terres. Aujourd'hui, place à une géopolitique des terres arables, s'approprier la terre, du libéralisme au néocolonialisme.
Je pense qu'il n'existe pas de terre aussi bonne que celle-ci en Inde.
C'est de la terre noire, non?
Oui, si tu marches dessus, c'est comme une éponge.
Vous allez en faire le grenier de l'Éthiopie.
Le grenier du monde, tu veux dire.
Nos bêtes là-bas, elles sont déjà sur le territoire des Indiens. Quand ils vont commencer à labourer, elles ne pourront plus aller nulle part. Il faudra peut-être qu'on prenne les armes.
Que l'on soit africain ou asiatique, ou que l'on soit de l'Amérique latine, personne n'a envie de s'entendre dire « quittez votre terre et quelqu'un d'autre va prendre cette terre ». Mais le risque de créer des conditions d'un échange inégal, d'un pacte colonial, ces risques sont extrêmement importants.
De l'Inde à l'Éthiopie, des paysans qui doivent quitter leurs terres qui les faisaient vivre, pour que d'autres puissent les exploiter. Un accaparement dénoncé par Jacques Diouf, qu'on entendait à l'instant, ancien directeur de la FAO. Depuis la crise financière de 2008, la terre agricole s'impose de nouveau sur les marchés internationaux comme un placement lucratif. Si nombre d'investisseurs sont à la recherche d'une rentabilité intéressante, on observe aussi, dans cette course à l'achat de terres arables, de nouveaux acteurs et de nouveaux enjeux. Après les businessmen de l'agroalimentaire sont arrivés les fonds d'investissement, les fonds souverains et puis les États. Et c'est ainsi que l'on voit apparaître, ou plutôt réapparaître, de véritables stratégies d'accumulation du capital foncier avec leurs cohortes de tensions et de rivalités. Alors comment l'approvisionnement agricole s'impose-t-il comme un enjeu de sécurité nationale et de souveraineté ? L'acquisition de foncier agricole révèle-t-il d'une logique purement économique ou de rapports de domination entre États et qui sont les gagnants et les perdants de ce nouveau grand jeu? Combien de temps encore pourra-t-on laisser courir cette marchandisation des terres? Et d'ailleurs, existe-t-il des tentatives pour réguler ce commerce mondial pas tout à fait comme les autres? Pour évoquer ces questions, deux invités avec nous. D'abord, Pierre Pouche, bonjour.
Thierry Pouche,
bonjour. Merci d'être avec nous, Thierry Pouche. Vous êtes économiste, chef du service d'études et prospectives de l'APCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et puis chercheur associé à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, et puis membre de l'Académie d'agriculture, auteur avec Jean-Marc Chaumet de « La Chine, un risque de la dépendance alimentaire » qui était paru aux presses universitaires de Rennes. Et Pierre, le voici, c'est Pierre Blanc qui est avec nous depuis France Bleu Gascogne. Bonjour Pierre Blanc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes professeur de géopolitique à Bordeaux, Sciences Agro et Sciences Po Bordeaux. Et puis auteur d'un dernier ouvrage paru l'année dernière, Terre, pouvoir et conflit, une agro-histoire du monde. On en parlera dans un très très court instant. D'abord, je vais commencer avec vous, Thierry Pouche. Vous aviez écrit notamment un article intitulé « L'appropriation des terres agricoles, nouvelle étape de la mondialisation » qui avait été publié dans la revue L'Économie politique. Vous y expliquiez comment depuis 10-15 ans, le foncier agricole est devenu l'objet de convoitises de plus en plus importante. C'est vrai qu'on a commencé à en parler de cet accaparement des terres, de ce land grabbing en anglais, depuis le début des années 2000, mais il y a eu une vraie montée en puissance depuis une quinzaine d'années, peut-être en particulier depuis la crise de 2007-2008. Pour quelles raisons? Au fond, pourquoi la crise financière a-t-elle déclenché ce grand mouvement d'achat foncier un peu partout dans le monde?
On peut effectivement se caler sur la crise financière de 2007-2008. Qui a occasionné une série de flambées de prix agricoles, qui a occasionné des difficultés pour un certain nombre de pays importateurs à s'approvisionner au prix où la denrée était fixée sur le marché, et que par conséquent il y a eu une prise de conscience de la part d'un certain nombre d'États importateurs que il y aurait probablement des flambées de prix à répétition, ce qui n'est plus tout à fait le cas d'ailleurs aujourd'hui, et il fallait peut-être trouver des issues pour sécuriser les approvisionnements alimentaires. Alors, au-delà de l'importation qui peut s'avérer coûteuse, donc, on a cherché des voies. Et une des voies possibles, ça a été de s'approprier. Après, il faut définir un petit peu, se mettre d'accord sur le terme qu'on utilise.
On y reviendra. Faire un petit travail de définition, voilà. Bien sûr.
S'approprier des hectares de terre pour, justement, contrôler l'outil de production. Et à partir de là, réexpédier à partir du territoire sur lequel on a investi les récoltes dans le pays d'origine. Donc ça, c'est un premier point. D'autres pays ont non seulement pris conscience que le marché était trop instable maintenant, mais il y avait aussi des raisons de réchauffement climatique. Un certain nombre de régions du monde sont quand même de plus en plus touchées par ce réchauffement et que il fallait trouver des hectares de terre disponibles pour justement échapper à ces aléas climatiques dans le pays d'origine, dans le pays qui investit.
Vous écrivez, Thierry Pouche, à propos de ces achats fonciers agricoles, qu'ils témoignent d'une mutation inédite de la mondialisation. Une mutation. Alors, comment, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas une nouvelle étape dans la mondialisation, mais c'est un changement de nature de la mondialisation pour vous.
Voilà. Parce que on avait quand même à l'origine cette idée que les facteurs de production en économie pouvaient être délocalisés. Donc le capital, une entreprise pouvait s'internationaliser. Il peut y avoir des flux de capitaux avec des phénomènes de fusion, acquisition dans un certain nombre de pays du monde, de création de filiales. Le facteur travail peut aussi être délocalisé. Mais le facteur terre, en général, il est considéré comme immobile. On ne peut pas délocaliser un hectare de terre, le transférer ailleurs. Donc, c'est une forme aujourd'hui à travers ces investissements dans le foncier agricole, dans les terres cultivables. C'est une forme de délocalisation qui apparaît et qui est d'une certaine façon est ancienne. On sait très bien que l'histoire des Amériques, par exemple, à partir du XVe siècle, a été marquée par la conquête d'hectares de terre à travers la création de grandes plantations. Mais là, ça prend une forme un peu inédite parce que non seulement c'est corrélé à la crise économique et financière, on a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, c'est aussi des acteurs financiers qui, du fait de la dégradation de leur rentabilité dans l'immobilier, ont cherché des sources de rentabilisation de leurs capitaux dans d'autres secteurs et donc, dans la mesure où il y avait des flambées de prix, eh bien, ils pouvaient aussi saisir cette opportunité. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez inédit. C'est un maillon supplémentaire dans la mondialisation. C'est une mutation puisque maintenant, on essaye de contrôler le foncier, l'outil de production qui va permettre de sécuriser, mais pas seulement, de diversifier aussi des investissements.
Alors, voilà pour ce qui est du discours de l'économiste sur l'accaparement des terres. Voyons maintenant ce que nous dit le géopolitologue Pierre Blanc. Est-ce que cet accaparement des terres relève seulement de logique économique, c'est seulement au fond le fruit du libéralisme débridé qui aurait trouvé dans la terre au fond la dernière étape, peut-être pas la dernière, mais en tout cas une nouvelle étape d'une globalisation poussée à son paroxysme, ou est-ce que c'est aussi un moyen par lequel certains États imposent leur puissance à d'autres, Pierre Blanc?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Thierry, en termes géopolitiques. Cette question des accaparements fonciers, ou on peut les nommer autrement, en quoi on peut les articuler aux politiques de puissance qui constituent un des aspects de la géopolitique. Eh bien, sur ce plan-là, je pense que c'est un peu pauvre. Je me permets de dire ça en ce sens que, finalement, quand on y regarde de près, dans la cartographie de cette mondialisation foncière, de ces accaparements, peu d'États, en fait, ont une vraie stratégie d'acquisition foncière à des fins de puissance. Il y a pour la plupart des investissements à but économique. Quand les États-Unis ont dit qu'ils investissent dans la terre ailleurs, ce sont des entreprises. Il n'y a pas forcément un agenda politique de puissance. Par contre, il y a quelques États, effectivement, qui répondent à cet agenda de puissance, autrement dit de sécurisation de leurs approvisionnements, pour ne pas dépendre des autres, pour garder une capacité à ne pas dépendre, à garder une capacité à refuser de faire, en quelque sorte. Mmh. Et je les cite, il y a les pays du Golfe qui ont une stratégie de puissance à l'échelle régionale et qui veulent absolument sécuriser leur approvisionnement. Donc là, on a une véritable approche étatique de la souveraineté et puis de fait de la souveraineté alimentaire, avec donc mobilisation dans le répertoire des solutions de terres à l'étranger. Mmh. Donc je pense à l'Arabie Saoudite en particulier, hein, qui loue des terres au Pakistan, au Soudan, en Éthiopie et ailleurs, les Émirats Arabes Unis également, qui répondent à un agenda politique de puissance. Et puis on peut, dans ces stratégies de puissance, on peut aussi peut-être évoquer la Chine, qui est préoccupée dans son agenda politique ou géopolitique. Il y a la sécurisation des approvisionnements alimentaires, Thierry pourrait en parler beaucoup, qui préoccupe Pékin au même titre que l'approvisionnement énergétique, ou le contrôle de ces territoires irrédentistes, on va dire. Les approvisionnements alimentaires, donc la Chine veut les sécuriser, entre autres en se projetant à l'étranger, mais ça n'est jamais qu'un élément de la réponse.
Oui, je vous en prie, poursuivez.
Oui, voilà, donc si vous voulez, je pense que du point de vue géopolitique, donc la question de la puissance peut éclairer en partie cette question des accaparements. Par contre, il y a une autre dimension de la géopolitique, mais je pense qu'on en parlera plus tard, c'est à savoir les rivalités de pouvoir sur des territoires. Et là, effectivement, ces investissements, qu'ils émanent des États avec un agenda souverainiste, on va le dire, comme la Chine ou comme les pays du Golfe, ou qu'ils émanent d'entreprises, tous ces investissements produisent ça et là, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient, des mobilisations paysannes ou de sociétés civiles contre ces investissements. Et parce qu'il y a des déguerpissements de population, il y a des effets induits négatifs qui provoquent ces réponses. Donc, en termes de rivalité de pouvoir, oui, ces investissements, quelle que soit leur origine, ont des répercussions géopolitiques.
Oui, ça produit des choses en politique, ça produit des choses en géopolitique. On peut notamment, par exemple, mentionner un événement qui avait quand même marqué particulièrement, c'était ces investissements d'une société sud-coréenne, en l'occurrence Daewoo, du côté de Madagascar, plus d'un million d'hectares qui, en fait, le contrat avait été finalement annulé, mais en tout cas, ça avait provoqué de très fortes contestations et même la démission, en réalité, du président malgache de l'époque. Donc, on voit très bien les conséquences politiques et géopolitiques qu'on peut y voir. Thierry Pouche, faisons un peu de travail de définition, parce que c'est très difficile de savoir de quoi on parle, accaparement des terres, j'ai parlé de land grabbing, on peut parler d'appropriation de terres, je crois que la bonne formule c'est acquisition foncière agricole internationale. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur d'abord le terme, et puis qu'est-ce qu'on entend par là, comment est-ce qu'on peut le définir, Thierry Pouche?
Il y a une sémantique extrêmement étendue, extrêmement large quand on aborde ce sujet-là. C'est l'accaparement, c'est l'acquisition, l'appropriation. Il y en a qui ont parlé même de razzia sur un certain nombre de terres, avec une lecture là du coup un peu plus politique. Oui. Et comme vous avez fait référence à Jacques Diouf, c'est lui qui avait même parlé de néocolonialisme, ce qui est une lecture un petit peu abusive à mon sens, parce que l'idée de colonialisme, c'est aussi s'emparer des structures étatiques du pays dans lequel on investit, dans lequel qu'on colonise. Je pense que il faudrait peut-être plus parler aujourd'hui de néo-impérialisme d'une certaine façon, puisque là on essaye de s'approprier, d'acquérir des surfaces qui permettent de produire. Mais bon,
qu'est-ce que serait la définition de l'acquisition foncière agricole internationale?
C'est en fait, si on reprend la définition d'un des grands spécialistes de la question, Ward Hansen, c'est un transfert de l'usage, du contrôle ou de la propriété de la terre via la vente ou la location sur des surfaces qui peuvent être supérieures à 200 hectares. Et c'est là que, d'une certaine façon, la définition est à la fois précise et en même temps limitée, puisque on se cale sur une dimension. Mais ça échappe, toutes les dimensions inférieures à 200 hectares échappent finalement soit au calcul, soit à la définition. Ce qui représente du coup peut-être une certaine limite là.
Une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette définition, qu'on regarde un petit peu ce que ça représente dans le monde, alors moi je suis allé sur un site qui fait référence en la matière, en l'occurrence Land Matrix, et on nous dit que les acquisitions foncières cumulées depuis 2000, c'est 49 millions d'hectares. J'ai pas l'idée de ce que ça représente par rapport aux terres arables totales. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup?
C'est peu, c'est très peu, puisque d'abord il faut replacer ça au regard des surfaces qui sont demandées, mais qui ne sont pas forcément obtenues. Et on est là sur...
Les 49 millions, c'est des contrats passés.
C'est des contrats passés, c'est les surfaces qui sont effectivement transférées juridiquement. mais il y a aussi les surfaces demandées et les contrats ne sont pas forcément ils n'aboutissent pas forcément par la signature. Et là, on est sur des surfaces qui sont deux fois supérieures, puisqu'on est aux alentours de 85 millions d'hectares. Bon, ça, c'est un premier point. Et par rapport aux surfaces cultivables dans le monde, alors ça dépend après si on rajoute la forêt ou pas, etc. On est, d'après les sources qu'on peut avoir, qui peuvent être divergentes, sur 4 milliards d'hectares. Donc vous voyez que c'est quand même une proportion relativement faible, ce qui rejoint d'ailleurs ce que disait Pierre Blanc à l'instant, c'est-à-dire que le nombre de pays qui sont concernés, par rapport au nombre de pays total dans le monde, c'est relativement peu finalement.
C'est relativement peu. En même temps, quand on regarde la carte des pays investisseurs dans le foncier agricole, on se rend compte que c'est quasiment l'ensemble du monde. Et c'est d'ailleurs assez frappant de voir ça sur Land Matrix. Tous les pays du nord, du sud, font des investissements fonciers agricoles.
Oui,
ça,
mais
c'est
avec des proportions qui sont plus ou moins élevées.
Mais tous les pays quasiment le font. Oui. Et quand on regarde le classement, Pierre Blanc, des plus gros investisseurs, les 10 plus gros investisseurs dans le foncier agricole en millions d'hectares, je vais donner le top 10, le classement des 10 premiers. Le premier, c'est les États-Unis, avec 8,2 millions d'hectares. Deuxième, c'est la Malaisie, avec 4,1 millions d'hectares. Singapour, ensuite, avec un peu plus de 3 millions. La Chine, seulement, ensuite, quatrième, avec un peu plus de 4 millions d'hectares. Le Brésil, avec 2,4 millions d'hectares. Les Émirats Arabes Unis, dont vous parliez tout à l'heure, avec 2,3 millions. La Grande-Bretagne, 2,2 millions d'hectares. L'Inde, 2 millions d'hectares. Les Pays-Bas, 1,8. Et l'Arabie Saoudite, 1,6. Qu'est-ce que je dois retenir, Pierre Blanc, de ce classement? Et peut-être en particulier des motivations des uns et des autres. Est-ce qu'elles sont toujours les mêmes? Est-ce qu'il est question de sécurité alimentaire? Est-ce qu'il est question de puissance, précisément, Pierre Blanc?
Oui, je vous avais raison de dire qu'effectivement beaucoup de pays entrent dans ce dispositif et c'est bien aussi effectivement de mettre en lumière le classement. Qui dit certaines choses, permettez-moi d'insister, qu'effectivement, dans le top 10 que vous avez cité, peu de pays répondent à cette stratégie dont je disais, autrement dit, de sécurisation alimentaire proprement dite, c'est-à-dire, je reviens sur la Chine, vous avez dit que finalement c'était une position relativement modeste, encore que, et les pays du Golfe. J'ajouterais d'ailleurs dans la...
Modeste au regard de ce que ça représente dans les médias. Quand on regarde les papiers, la Chine est toujours vue comme le pays qui va aller partout pour acheter ou louer des terres. Et quand on regarde le classement, 3 millions finalement au regard des États-Unis qui sont à plus de 8, c'est pas énorme. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je pense que tout ça est en résonance avec la politique de puissance conduite par la Chine de Xi Jinping plus largement. Et donc, il y a effectivement peut-être quelque chose de l'ordre de la crainte qui fait qu'on regarde au plus près ces investissements fonciers chinois, d'autant qu'ils se portent même en France. Alors, pour continuer le commentaire des chiffres que vous donnez, on voit bien qu'effectivement... la plupart des pays qui entrent dans ces processus répondent à des stratégies de firmes, d'investisseurs privés qui cherchent donc à investir dans cet actif supposément rémunérateur ou très rémunérateur. Je pense aux USA, je pense à Singapour, je pense à la Malaisie. Effectivement, la Malaisie est très étonnamment la deuxième. C'est tout simplement parce que elle a une volonté, notamment en Indonésie, de d'investir beaucoup dans la culture de l'huile de palme. C'est donc, elle joue là, une insertion économique dans la mondialisation. Donc là, on a des stratégies purement économiques, et aussi géoéconomiques. Hein. Là, c'est Thierry qui pourrait en parler. Et peut-être, quelque part aussi, de puissance, mais au sens de puissance économique. Voilà les commentaires que je ferai.
Alors, on va faire aussi Thierry Pouche. Et puis ensuite, on ira de l'autre côté. On va essayer de faire aussi une géographie des pays cibles. Mais pour le moment, restons sur les investisseurs, Thierry Pouche. On parlait de la Chine à l'instant, vous qui avez écrit justement un ouvrage consacré à la Chine risque de la dépendance alimentaire. Comment comprendre la stratégie de la Chine pour justement bien garantir sa sécurité alimentaire? Au fond, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a derrière les 3,1 millions d'hectares que la Chine a acheté ou loué à l'extérieur de son propre territoire? Et quelle stratégie il y a derrière, s'il y en a une?
Il y en a une. On va voir laquelle. La Chine se caractérise aujourd'hui comme chacun le sait, par une population qui représente un peu moins de 20% de la population mondiale, avec une superficie agricole qui essaye d'être maintenue par les autorités aux alentours de 122 millions d'hectares, mais c'est compliqué parce qu'il y a l'industrialisation, l'urbanisation qui s'accélère.
En pourcentage de terres arables, c'est 8%. Donc c'est 20% c'est ça, de la population voilà. mondiale et pour c'est 8% des terres arables. Donc voilà, pour
et
donner
par
un
habitant,
peu une...
vous avez 0,07 hectares par habitant en Chine pour une moyenne mondiale de 0,21 hectares. Donc vous voyez que la Chine est en difficulté. Si vous ajoutez à cela des contraintes liées à l'eau, à la aux régions désertiques, plus le fait que la Chine a quand même opté pour une modernisation économique calée sur l'industrie, vous avez tous les éléments pour indiquer que la Chine va être confrontée à des problèmes de production qui ne pourront plus répondre aux besoins d'une population qui a un niveau de vie qui s'élève, qui s'urbanise, dont les pratiques alimentaires sont en train de s'occidentaliser. Donc la Chine cherche par l'importation à sécuriser ses approvisionnements, mais comme c'est, je le disais tout à l'heure au début, elle peut être confrontée à des problèmes de prix qui flambent, à des problèmes d'aléas climatiques qui endommagent les récoltes. Donc elle est obligée aujourd'hui d'avoir une stratégie de sécurisation de ses approvisionnements en investissant dans le foncier, mais à des fins pour l'essentiel productives. C'est-à-dire
mais qu'est-ce qu'elle produit?
Alors, si elle produit des céréales, Pierre Blanc faisait référence aux investissements chinois en France qui sont relativement marginaux, mais enfin, les 1700 hectares dans l'Indre ou les 900 dans l'Allier peuvent constituer peut-être les signes annonciateurs d'un investissement massif dans l'Hexagone. C'est produire, continuer à produire des céréales pour les renvoyer en Chine, de façon à fabriquer des produits comme ceux de la viennoiserie, par exemple, dont les Chinois sont assez friands. Et l'objectif de l'investissement dans l'Indre, c'était ça, c'était de continuer à produire des céréales, et du blé en particulier, pour ensuite satisfaire des besoins d'une population.
Mais c'est pas seulement ça. Quand, par exemple, la Chine investit dans... la viticulture, par exemple, oui. Au hasard. Alors, je sais bien, c'est pas énorme. En réalité, les investissements étrangers, pas seulement la Chine, dans la viticulture, c'est 2% des surfaces totales en France. Mais c'est quand même important. Et quand un Chinois rachète le château de Gevrey-Chambertin, évidemment, ça fait les gros titres. Mais pourquoi est-ce qu'on vient investir dans la viticulture? Il n'est pas indispensable pour les Chinois de boire du vin. Enfin, je veux dire, il n'est pas une question... On ne parle pas de sécurité alimentaire, là.
Non, pour le vin, peut-être, mais... quand les Chinois détiennent 3% du vignoble bordelais, effectivement, ça interpelle. Mais il faut quand même préciser que les Chinois consomment de plus en plus de vin.
Oui.
Ils se sont ouverts au monde.
Ils en produisent également de plus en plus.
Ils en produisent de plus en plus. Les importations de vin pour la Chine en provenance de France ont quasiment doublé depuis une dizaine d'années. Le fait d'avoir ce vignoble ou une partie du vignoble bordelais permet d'une certaine façon de sécuriser entre guillemets non pas l'approvisionnement alimentaire mais de sécuriser l'approvisionnement dans un produit qui est particulièrement apprécié en Chine. Oui. Et le président Xi Jinping est un grand amateur et un grand connaisseur de vin de Bordeaux.
Il a d'ailleurs des vignes.
Mais en même temps, en contrepartie, je tiens à le dire, c'est que étant donné le prix de l'hectare de terre dans la région de Bordeaux, la transmission des exploitations viticoles est de plus en plus compliquée, de plus en plus contrainte, et l'investissement chinois permet justement de maintenir l'outil de production dans cette région-là.
Alors, je me tourne vers vous, Pierre Blanc, et on va faire le même exercice de géographie avec les pays cibles. On va regarder quels sont les pays qui sont le plus concernés justement par ces acquisitions foncières agricoles. Et je vais reprendre le même classement, un top 10, alors vous allez voir que les pays ne sont pas tout à fait les mêmes. Le premier pays à être concerné par ces acquisitions foncières, c'est la République démocratique du Congo, 5,2 millions d'hectares. Ensuite, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 3,7 millions d'hectares. L'Indonésie, ensuite, 3,2. Le Brésil, 3 millions d'hectares. L'Ukraine, 2,7 millions d'hectares. Le Soudan du Sud, 2,6. Le Mozambique, 2,5. La Russie, 2,4. Le Congo, 2,3. Et le Libéria, 1,8. Alors, quand je lis cette liste, Pierre Blanc, tout à l'heure Thierry Pouche nous disait, oui, le néocolonialisme, c'est un mot un peu fort, et il a probablement raison, mais tous les pays que j'ai cités là ne sont pas forcément connus et reconnus pour leur stabilité, disons, et leur respect des valeurs démocratiques, en tout cas telles qu'on les entend nous. Je sais pas, par exemple, la République démocratique du Congo, est-ce que c'est tout à fait un hasard si c'est le pays qui vend ou loue le plus de terres, Pierre Blanc?
Je compléterai par rapport à ce que j'ai dit, pardon d'ajouter une dans la liste des pays qui émettent des investissements. Hein, je me permets d'ajouter le Brésil, qui reçoit aussi des investissements, on va le voir.
Oui.
Mais j'ai parlé de la Chine et des pays du Golfe qui avaient une vraie stratégie d'État, de puissance. Le Brésil, on peut le dire, a aussi cette stratégie d'investissement qui est politique, qui va de la dictature de 1964 à 1985. Hein, donc ça veut dire que les accaparements fonciers, c'est aussi des phénomènes anciens. On aurait pu davantage peut-être en parler de cela. Et jusqu'à aujourd'hui, Bolsonaro, hein, on a une vraie stratégie d'accaparement à l'intérieur du territoire brésilien, à des fins de puissance, à des fins de production de soja. Le Brésil se rêve en producteur de soja et veut vendre son soja à l'échelle planétaire. Et donc de la dictature brésilienne jusqu'à Bolsonaro, et en passant aussi par la période de Lula, il y a
une stratégie de puissance.
Qui va même jusqu'à l'accaparement de terre au Paraguay.
Mais Pierre Blanc, sur les pays cibles, la question est très très claire. La question est-ce que les pays qui sont particulièrement concernés sont des États particulièrement faibles? Je vais vous poser la question directement, Pierre Blanc.
Ça dépend des États. On a dans la liste des États très différents. Vous avez mentionné l'Ukraine et la Russie. Là, on peut pas dire qu'on a des États faillis. En tout cas, dans le cas de la Russie, c'est pas le cas.
J'entends bien. RDC, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Congo, Libéria, Mozambique, Soudan du Sud.
Sur la Russie et l'Ukraine, je finis là-dessus. Effectivement, on le sait très bien, mais je crois qu'on va en parler avec un autre intervenant, que la dislocation de l'ancien système socialiste a ouvert des pans entiers de fonciers dans ces pays et ailleurs. Alors, Soudan du Sud, Mozambique et autres, oui, là, on n'est absolument pas dans le même cas de figure. On est dans des États faillis, faibles, parfois prédateurs, qui fait que ce sont les États eux-mêmes qui se font les partenaires de ces grands investissements. Et quand je dis les partenaires, c'est dans des conditions assez souvent désavantageuses par rapport aux populations concernées. Je pense au Mozambique qui s'était proposé pour accueillir un investissement brésilo-japonais à hauteur de 14 millions d'hectares, ce qui n'est pas rien, c'est la moitié de la surface arable française, et au détriment de populations qui n'ont pas de titre de propriété. Parce que dans cette carte que vous me soumettez, en particulier en Afrique, c'est le flou du foncier et la faillite ou la défaillance des États qui contribuent à faciliter finalement ces investissements au détriment des populations. Alors que, par exemple, au Mozambique, hein, qui a eu une expérience socialiste, ce sont des terres qui sont restées, après l'étatisation, propriété de l'État, et l'État en dispose comme il lui paraît souhaitable de le faire, et parfois au détriment des populations. Vous avez cité aussi le Soudan, qui est dans le même cas de figure. Bref, tous ces pays dont vous parlez sont des pays qui ne s'illustrent pas du tout par le respect de l'état de droit. On peut aller jusque à l'Indonésie, hein, à l'Indonésie qui est un haut lieu de ces accaparements, là aussi dans les îles les différentes îles de l'archipel, au détriment des populations et souvent avec les complicités de l'État indonésien.
Ouais, l'Indonésie qui est troisième dans le classement. Thierry Pouche, je vais réagir aussi sur ce classement.
Oui, parce que sur la République du Congo, c'est assez intéressant quand même. Effectivement, il y a de l'instabilité politique dans ces pays, mais sur la République démocratique du Congo, c'est assez significatif de voir comment les propriétaires fonciers d'Afrique du Sud se sont sentis menacés par une réforme agraire après la fin de l'apartheid et ont donc, à travers des plateformes de syndicats d'agriculteurs, ont réussi à trouver des hectares de terre disponibles dans les pays un peu plus situés au nord, et en particulier la République du Congo. Donc vous voyez que le chevauchement entre les positions économiques des acteurs et chercher des issues avec des conditions politiques favorables n'a fait que favoriser ces investissements dans des hectares de terres cultivables de la part cette fois-ci d'acteurs privés et non plus d'acteurs publics. Parce que il en résulte de tout ça qu'on a une grande variété de modèles d'investissement. On a évoqué les investissements à des fins de sécurisation alimentaire, mais il faut regarder aussi des investissements qui existent, qui sont des investissements spéculatifs en fait. On achète et on revend la terre un peu plus tard à un prix bien supérieur pour faire vite. Mais il y a aussi tous ces acteurs privés qui ont plutôt une stratégie d'agro-industrie. Et ça concerne, Pierre Blanc le rappelait tout à l'heure, évidemment les productions de palmiers à huile, tous les agrocarburants qui concernent les palmiers à l'huile bien sûr, mais aussi le maïs, ça peut être le blé aussi, mais il y a la canne à sucre, par exemple. Donc là, on a des investisseurs strictement privés qui ont une autre stratégie. Pour les États-Unis, qui sont quand même l'un des plus gros investisseurs dans le monde.
Le premier
maintenant. Alors, ça veut dire que la Malaisie ne l'est plus. Ces acteurs privés, c'est-à-dire les fonds d'investissement, les fonds de pension, les compagnies d'assurance américaines, représentent plus d'un tiers des investisseurs aux États-Unis dans des hectares de terres cultivables. Et là, c'est vraiment de l'agro-industrie, vraiment une stratégie économique de diversification, de promotion des agrocarburants, dont on sait que ça va devenir quand même une équation fondamentale.
Regardons justement comment s'appliquent ces différentes stratégies sur le terrain. Essayons de comprendre un peu dans quelles conditions se passe ce type de deal. Prenons un exemple de deal foncier entre un investisseur étranger et un pays cible. C'est quoi le rapport de force entre l'investisseur et le bailleur foncier? La marge de manœuvre dont disposent les deux parties?
Ça dépend quel est le pays cible. Si vous avez des États africains qui ont non seulement un problème d'instabilité politique, mais aussi une espèce de défaillance sur le système juridique, c'est très facile, effectivement, d'acheter ou de louer des hectares de terre, sachant que il n'y a pas de protection au sens du droit de propriété. C'est sous vous avez encore des pays d'Afrique où c'est du droit oral plutôt, donc c'est plus facile de transmettre ça, et en plus l'instabilité politique favorise tous les phénomènes de corruption.
Oui. Donc après, on peut dire globalement que quand il y a un deal qui est passé, quel qu'il soit, quelle que soit la stratégie qui est derrière, ceux qui font les frais de tout ça, c'est quand même ceux qui sont sur place, les paysans qui vivent d'eux et sur cette terre en question. C'est toujours un drame social, humain.
Absolument. Mais d'où justement aujourd'hui le fait que le processus d'accaparement de terre rencontre des limites, parce qu'il y a des réactions. Alors il y a eu le cas de Madagascar qui est assez emblématique, mais il y a de plus en plus de réactions de la population paysanne qui se sent dépossédée de son outil de production. Les opinions publiques, y compris dans les villes, prennent le relais, et vous avez un certain nombre de pays aujourd'hui, d'États, de structures politiques qui réagissent en adoptant des législations appropriées pour essayer de... Non,
en particulier... Vous avez des exemples?
Alors, dans les États qu'on appelle en voie de développement, j'en ai pas encore beaucoup, mais dans des pays développés qui sont fortement concernés par ce phénomène d'appropriation, comme l'Australie par exemple, il y a des législations qui ont été adoptées pour empêcher la vente, autoriser la location, mais aussi pour qu'il y ait des phénomènes de déclaration de la part d'investisseurs du moindre hectare de terre acheté.
Sauf que l'Australie n'est pas particulièrement concernée.
Absolument.
Donc c'est toujours le même problème. Pour les plus faibles, c'est compliqué. Pierre Blanc, je voudrais qu'on essaye de s'intéresser à la question de la faim, parce que alors que le nombre de personnes souffrant de malnutrition ne cessait de reculer depuis plus d'une décennie, on a noté une remontée dans les chiffres de la FAO en 2016 et qui s'est confirmée en 2017 avec 815 millions de personnes souffrant de la faim, c'est-à-dire une augmentation de 38 millions par rapport à l'année précédente. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre la sous-alimentation et le phénomène d'acquisition de foncier agricole. On le disait à l'instant avec Thierry Pouche, c'est toujours un drame social, humain pour les paysans qui vivent des terres sur lesquelles où on leur demande finalement de partir. Alors est-ce qu'on peut établir une corrélation entre les deux, Pierre Blanc ?
C'est assez la corrélation n'est pas forcément une causalité. C'est vrai que l'occurrence de la malnutrition ou de l'insécurité alimentaire, en tout cas, est la plus forte en Afrique, continent qui est visé par, en particulier par ces accaparements fonciers dans les conditions que l'on a dites. Donc on peut superposer les cartes en partie. Mais il est difficile d'expliquer seulement la fin cette mondialisation foncière. La fin vient de bien plus loin. Mmh. Elle vient de
mais est-ce qu'elle l'aggrave ? Est-ce que ça l'aggrave ?
Alors, dans les chiffres, effectivement, la remontée de la faim dans le monde est liée depuis... les chiffres de 2016 le montrent assez clairement. C'est lié à des situations de guerre civile pour l'essentiel, de violences politiques en Afrique. Je pense au Sud-Soudan, je pense plus largement à la Corne de l'Afrique. Je pense à la République démocratique du Congo avec des violences à certains endroits, la Centrafrique bien sûr, je pense au Yémen. Voilà, donc ce sont avant tout des guerres civiles qui expliquent cela. La faim, on le sait, vient de plus loin, elle affecte plutôt les mondes ruraux. Et dans ces mondes ruraux, évidemment, on compte surtout des agriculteurs. Ceux qui ont le plus faim sont souvent des agriculteurs. C'est lié au fait que, évidemment, ils sont assez disqualifiés, déshérités dans ces pays dits du Sud, en Afrique, en Amérique latine dans une certaine mesure, en Asie du Sud aussi, il faut pas l'oublier, l'Asie du Sud avec le Pakistan. Ce sont les conditions de la production qui font que ces agriculteurs n'ont pas des revenus qui leur permettent d'accéder à suffisamment de nourriture. Mmh. Et là, dans ce contexte, pour répondre à votre question, les accaparements peuvent aggraver la situation. Il ferait voir pays par pays, mais évidemment quand des populations se trouvent être poussées à partir, eh bien évidemment ça accroît l'insécurité alimentaire, mais il est difficile de le quantifier
et d'établir une causalité directe. Thierry Pouche, vous vouliez réagir sur ce point?
Je pense qu'on est là sur une dimension fondamentale parce que il faut vraiment examiner quelles sont les finalités de ces investissements dans les terres cultivables. Parce que si cela entraîne une éviction des populations paysannes qui sont donc dépossédées de leur outil de production, si le processus se poursuit durant encore quelques années, voire plus, là effectivement la corrélation pourra être établie entre la malnutrition, la sous-alimentation dans certaines régions du monde et ces investissements fonciers. Mais pour l'instant, je suis pas sûr, comme le disait Pierre Blanc, que ça soit véritablement quelque chose d'aggravant. Ça peut l'être à terme si ça continue et si on dépossède. C'est pour ça que l'importance, il y a une chose très importante, c'est que quand on investit et quand un État cède des hectares de terre, il faut qu'il y ait un cahier des charges pour que justement les populations paysannes, même si elles ne sont plus propriétaires, puissent au moins travailler et avoir
pour les inclure
voilà, pour les inclure,
ce et qui est d'ailleurs souvent le cas aussi. C'est souvent le cas. J'ai donné tout à l'heure la version un
et
peu
qu'il y ait des choses, mais de quoi accéder à l'alimentation à partir de ça.
Oui, c'est souvent le cas. On essaie de les inclure justement dans ces projets, mais compte tenu évidemment de ces enjeux que vous décrivez, du fait que ça pourrait aggraver les choses dans les années, dans les décennies à venir, est-ce qu'il ne faudrait pas penser un cadre spécifique pour ce commerce international de la terre et des fruits de la terre qui ne sont pas des produits comme les autres. Et est-ce qu'il y a en la matière des initiatives, Thierry Pouche?
Je suis pas sûr, enfin à ma connaissance, qu'il y ait des initiatives en matière de gouvernance mondiale sur la régulation des transferts de propriété entre acheteurs ou loueurs et des pays qui sont la cible de ces investisseurs. Mais là, vous soulevez quand même une question importante parce que c'est le foncier agricole, mais c'est aussi toute la question alimentaire qui, d'une certaine façon, historiquement est quelque chose de très spécifique. Donc là, on assiste, c'est pour ça que je le rappelais dans l'article que vous avez cité, on a une marchandisation de la terre aujourd'hui à l'échelle mondiale. Donc probablement que il faudrait créer ou s'appuyer sur une institution internationale, peut-être la FAO par exemple, ou créer un conseil de sécurité de l'alimentation à l'échelle mondiale, de façon à réguler, examiner, contrôler, légiférer sur ces investissements dans des terres cultivables, de façon à protéger les populations qui seraient les plus exposées au risque d'une aggravation de la malnutrition.
Allez, on va s'intéresser à la Russie tout de suite.
Nos paysans seront libres. Libres de choisir leur forme et leur méthode de travail. Choisir entre kolkhoz, sovkhoz, coopérative et pour la première fois, propriété privée. Nous ne signerons pas le nouveau traité de l'Union tant que la propriété des ressources naturelles du pays ne sera pas réglée.
Voilà, on entendait à l'instant Boris Yeltsin en décembre 90 au moment de cette loi autorisant la propriété privée de la terre en Russie. On va essayer de comprendre un peu la stratégie agraire post-soviétique avec vous, Estelle Lézéan. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, chercheuse à Sciences Po Paris et puis auteur d'un article intitulé « L'agriculture russe en transition entre stagnation et modernisation post-soviétique ». On va prendre les choses dans l'ordre, Estelle Lézéan, et faire un peu, tout petit peu d'histoire. Durant la période soviétique, évidemment, l'agriculture, elle était très très largement collectivisée. Qu'est-ce qui se passe au moment de la chute de l'URSS? Comment on organise le redéploiement des terres et à qui va profiter cette remise à plat à l'origine de laquelle Boris Yeltsin essaye d'être?
Alors effectivement, durant les années 90, lorsque Boris Yeltsin est au pouvoir, une réforme agraire est lancée qui vise essentiellement le démantèlement des exploitations collectives au profit, c'est selon le souhait des réformateurs, au profit de l'émergence de petites exploitations paysannes de type occidental, qui ont pour vocation donc de suppléer ou remplacer les exploitations collectives. Mais très rapidement, on s'aperçoit que la réforme agraire telle qu'elle avait été conçue aboutit à un échec, en particulier du fait de la captation par les élites locales, précisément les directeurs, les barons rouges, comme on les appelle, les directeurs des anciennes exploitations collectives, qui vont mettre en place, moi ce que j'ai appelé précisément dans mon article que vous citez, un consensus négatif, c'est-à-dire nous préservons l'exploitation collective, mais nous préservons parallèlement les emplois. C'est la raison pour laquelle les salariés des exploitations collectives qui ont, grâce à cette réforme, obtenu des titres de propriété, ne vont pas les revendiquer pour la création de fermes privées, mais vont rester dans ces exploitations collectives.
Oui, donc une réforme qui finalement va être bloquée par ces élites locales, qui vont finalement conserver une grande partie en tout cas du capital foncier. Que change l'arrivée de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il va marquer une rupture dans la manière de gérer ce capital foncier agricole?
Alors, ce qui est très important, c'est que durant ces années 90, permettez-moi d'apporter cette précision, durant les années 90, le capital foncier donc va être concentré entre l'élite locale, mais les exploitations ont cessé de produire. Donc, avec l'arrivée de Vladimir Poutine, il y a une prise de conscience de la situation dramatique et Vladimir Poutine va faire de l'agriculture un peu son cheval de bataille. Il lui apparaît essentiel que l'agriculture devienne concurrentielle, compétitive sur le marché national et dès son arrivée au pouvoir, il précise sur le marché international.
Donc ça veut dire qu'il ouvre le secteur aux investissements étrangers.
Alors, ça va se faire un petit peu plus tard, vers les années 2002, suite à l'adoption du code foncier, qui avait été en discussion pendant 10 ans sous Yeltsin, Poutine va pousser cette adoption du code foncier, et également l'adoption sur les lois, les terres agricoles, pardon, en 2002, sachant que ces deux textes législatifs permettent aux investisseurs étrangers d'investir sur le marché foncier en Russie.
Et qui va venir? Qui va venir? Qui va arriver à ce moment-là?
Les Européens, essentiellement. C'est très important, car, comme je vous le disais, les exploitations avaient cessé de produire. Donc, l'apport financier des Européens est essentiel pour moderniser l'outil productif. Et par ailleurs, Poutine va s'appuyer sur ce que moi j'appelle le groupe des proches, mais ce qu'on appelle communément les oligarques, pour investir massivement dans l'agriculture et procéder à une première forme d'accaparement foncier, puisque nous observons la fusion de plusieurs exploitations collectives facilitées par des truchements juridiques, en particulier l'adoption d'une loi sur les faillites. Sachant que les exploitations collectives avaient cessé de produire, il était facile d'utiliser cette arme juridique pour permettre l'accaparement foncier par les oligarques russes.
Vous dites, Estelle Lezéan, et je vous donne la parole, Thierry Pouche, j'ai vu que vous vouliez intervenir, mais vous nous expliquez que les Européens vont arriver effectivement dans ce secteur agricole russe. On sait que les relations aujourd'hui entre l'Europe et la Russie sont pas forcément extraordinaires. Il y a eu évidemment cette annexion de la Russie, avec des sanctions vis-à-vis de la Russie, avec des ripostes aussi du côté russe, avec un embargo sur les produits alimentaires occidentaux. Est-ce que cette nouvelle conjoncture internationale, elle a entraîné des modifications dans la gestion du foncier agricole une fois encore, puisque précisément les Occidentaux étaient là à ce moment-là. Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils ont été remplacés par de nouveaux acteurs?
Alors précisément, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que suite à l'annexion de la Crimée, suite au conflit ukrainien, la Russie, je vous rappelle, décrète l'embargo sur les produits européens, ce qui va être très préjudiciable pour l'économie européenne et la France en particulier. La France était le premier pays exportateur ou importateur de viande porcine en Russie. La filière laitière va être complètement déstabilisée. Donc effectivement, il va y avoir une nouvelle phase d'accaparement des terres. Les Européens vont quitter la Russie, vont revendre leurs actifs, vont revendre leurs exploitations au profit d'une vague asiatique, ce que j'appelle moi une vague asiatique, c'est-à-dire des investisseurs asiatiques, pas seulement chinois, mais également coréens, de Singapour. Voilà. Donc nous sommes actuellement face à une nouvelle phase d'accaparement des terres.
Oui, il y a de nouveaux acteurs.
Au détriment des Européens qui ont énormément, qui ont procédé à un transfert de connaissances, de savoirs, qui ont formé, qui ont permis la modernisation de l'agriculture.
Et en parallèle de ça. En parallèle de ça, il y a aussi un processus de renationalisation d'un certain nombre d'exploitations, une renationalisation qui, là, pour le coup, va profiter aux proches du pouvoir.
Absolument. Ouais. Donc là, aujourd'hui, donc dans les années 2000, nous étions face à des exploitations qui couraient environ 10 000 hectares de terre. Là, aujourd'hui, grâce à ce nouveau processus de concentration foncière, les premiers grands complexes agricoles occupent plus de 800 000 hectares de terre.
Thierry Pouche, vous voulez réagir?
Oui, je voulais juste, si vous me permettez, ajouter un complément, c'est que dans ce processus qui va de l'échec de la réforme agraire de Boris Eltsine avec des chutes de production parfois impressionnantes à la stratégie de Vladimir Poutine de faire de l'agriculture un des leviers de la puissance nationale, je crois qu'il faut rajouter aussi tous les éléments de politique agricole. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a quand même injecté des milliards de roubles, le montant a doublé en une dizaine d'années. Alors évidemment, c'est hors de proportion avec ce que représentent les dépenses agricoles dans l'Union européenne, par exemple. Mais tout de même, on a là un processus qui... Avec la restructuration du secteur agricole, avec la politique agricole, plus ce que vous avez évoqué sur le foncier, et il faut ajouter le fait que l'embargo a permis justement à la Russie d'amplifier le processus et d'accéder au rang de grande puissance agricole aujourd'hui.
2017, c'est le premier exportateur de céréales.
Premier exportateur de blé. Pas de céréales. Blé, c'est le cinquième de céréales blé, et de blé. Il le sera plus, la Russie ne le sera plus cette année parce qu'il y a eu quelques difficultés, mais elle devrait retrouver son rang et on envisage que...
Tout ça grâce aux sanctions?
Non, il y a eu toute la phase de modernisation dans un premier temps qui a permis de redresser les productions et ensuite l'embargo a permis justement d'amplifier ce processus-là.
Je vais faire réagir Pierre Blanc et puis ensuite Estelle Lezéan, j'ai entendu que vous vouliez encore réagir, mais Pierre Blanc d'abord sur cette stratégie russe, stratégie ou pas d'ailleurs, Pierre Blanc.
Oui, j'aurais beaucoup de réactions.
On va essayer de faire court parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais je vous en prie.
Bien sûr. J'avais aussi des choses à dire sur l'Afrique, mais peut-être on y reviendra deux minutes. Sur la Russie, Thierry le mentionne. En fait, la Russie reprend sa place. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était la première exportatrice de blé. La Russie a été évincée des marchés agricoles pendant des décennies, eu égard à son choix de politique foncière adossée donc à le socialisme d'État. Hein.
Donc elle reprend sa place. Est-ce qu'elle l'utilise justement cette place retrouvée justement pour déployer sa puissance?
Je pense que ça fait partie, là encore, du répertoire de la puissance russe. On peut pas nier que Vladimir Poutine a une ambition de puissance. Il faut d'ailleurs analyser tout cela à l'aune de l'histoire vécue comme une humiliation par les Russes, et Vladimir Poutine représente ce courant-là.
Et comment ça s'illustrerait? Quelle forme ça prendrait en particulier, Pierre Blanc,
Concrètement, voilà. Il y a une stratégie, je pense, c'est un invariant de l'histoire russe, qui est d'aller vers les mers chaudes, c'est-à-dire la Méditerranée la Méditerranée et l'océan Indien. Et en Méditerranée, on le sait très bien, l'URSS et aujourd'hui la Russie ont ciblé des pays, en particulier la Syrie. Et dans le cas syrien, la Russie a sauvé le régime de Bachar el-Assad, certes par les armes, par l'intervention directe, mais également en approvisionnant ce pays qui avait perdu les terres agricoles de la région de l'Euphrate. Il ne faut pas le perdre de vue, qui était occupé par Daesh. Alors même que la Syrie avait été longtemps autosuffisante en céréales, donc la Russie a permis de soutenir le pouvoir de Bachar el-Assad en l'approvisionnant en céréales qui étaient véhiculées via la Crimée jusque au port de Tartous. Donc il y a une vraie stratégie russe adossée à la production de blé, et on peut observer la même chose avec l'Égypte, qui a été par moments un allié privilégié de la Russie, en tout cas sous Nasser, et qui de nouveau accueille ces céréales. Et la Russie donc utilise ces céréales dans sa politique de point d'appui en Méditerranée orientale.
Et notamment en Syrie, vous le disiez, et peut-être que c'est aussi le moment de rappeler que la Syrie à l'époque était aussi dans une crise agricole absolument terrible, et que ça a été en réalité l'un des moteurs de la contestation sociale en Syrie. On l'oublie parfois, mais c'est le cas. Merci infiniment à tous les trois. Estelle Lezéan, je rappelle votre article « L'agriculture russe en transition ». Entre stagnation et modernisation post-soviétique, mais on mettra ça sur le site de France Culture. Merci à vous, Pierre Blanc, d'avoir été avec nous. Et je remercie d'ailleurs les techniciens de France Bleu Gascogne qui ont permis de faire ce duplex. Terre, pouvoir et conflit, une agro-histoire du monde qui était parue aux presses de Sciences Po l'année dernière. Un grand merci à vous, Thierry Pouche, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappellerai vous concernant la Chine au risque de la dépendance alimentaire. C'était aux presses universitaires de Rennes. Tous ces articles et tous ces livres, toutes les références sur la page de Culture Monde. Полоска света за Voilà, un titre qu'on pourrait traduire par « Le crépuscule au-dessus des champs ». C'est évidemment un titre de circonstance. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous parliez hier de l'impatience que l'indépendance de fait dont jouissent les habitants de Taïwan provoque chez les dirigeants de la Chine continentale et des risques que cela comportait pour les relations déjà tendues entre Pékin et Washington.
Et voici qu'est justement publié en français un livre qui planche sur les scénarios possibles susceptibles d'amener au déclenchement d'une guerre entre les États-Unis et la Chine populaire. Parmi ces scénarios arrive en bonne position justement celui qui trouverait son origine d'une proclamation d'indépendance par la présidente de Taïwan. Imaginez, écrit Graham Allison dans « Vers la guerre », que Pékin décide d'écraser militairement, comme il l'a fait place Tiananmen, une nouvelle révolte d'étudiants, mais cette fois à Hong Kong. Eh bien, parmi les 32 millions d'habitants de Taïwan, où le sentiment de solidarité est profond, l'émotion serait intense. Dans tout le pays, on entendrait monter un appel populaire à fermer nettement toute perspective de rattachement à la Chine communiste et à proclamer l'indépendance de l'île. Pour manifester son soutien à Taïwan, imaginons que le président des États-Unis rappelle qu'en vertu du Taiwan Relations Act de 1979, son pays est tenu de défendre Taïwan contre une invasion chinoise. Réaction de Pékin ? Xi Jinping ordonne le tir de tests de missiles de croisière et de missiles balistiques dans le détroit qui sépare l'île démocratique rebelle de la Chine continentale. Scénario entre parenthèses qui n'a rien d'aberrant parce qu'en 1996 justement, la Chine a procédé pour de bon à des tirs de missiles d'essai dans le golfe de Taïwan dans le but de dissuader les Taïwanais de voter pour un parti qui leur déplaisait. À l'époque, le président Clinton a envoyé illico deux porte-avions américains sur place pour signifier que son pays ne tolérerait pas que la Chine entame un blocus de l'île qui est terriblement dépendante de son commerce maritime. Et les dirigeants chinois de l'époque ont battu en retraite.
Oui, Brice, mais c'était il y a 23 ans et la puissance chinoise était loin d'être équivalente à celle des États-Unis. La situation a un peu changé en 23 ans.
Eh oui, aujourd'hui, la Chine est équipée de redoutables missiles antinavires et d'une flotte de 62 sous-marins. Elle a militarisé, comme on sait, tout un chapelet d'îlots et il y a construit des pistes d'atterrissage et des radars. Elle est en mesure d'interdire aux navires de guerre américains de s'approcher à moins de 1600 km de ses côtes si elle le décide. Et de fait, elle est en train d'éjecter progressivement la flotte américaine de la mer de Chine méridionale. Elle est parfaitement capable désormais de couler des porte-avions américains valant plusieurs milliards de dollars et transportant 5000 marins et pilotes américains. Les Américains sont en train de tomber dans ce que l'auteur de ce livre, qui s'appelle Graham Allison, a baptisé « Le piège de Thucydide ». Ce livre donc, « Vers la guerre », sous-titré « L'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide », publié aujourd'hui par les éditions Odile Jacob, a été l'an dernier un best-seller aux États-Unis et on comprend pourquoi. Il est informé, clair, honnête, vivant. L'auteur est un universitaire de fort calibre. Il a été le fondateur et le doyen de la très prestigieuse Kennedy School of Government de Harvard. Et il a travaillé par ailleurs à plusieurs reprises en tant que conseiller de plusieurs secrétaires d'État américains, notamment sous les présidences de Reagan, de Clinton et d'Obama. Ces informations sont donc de première main. Le piège de Thucydide, c'est Graham Allison qui a lancé cette expression. Elle est partout reprise pour décrire la situation dans laquelle se trouve une puissance longtemps dominante face à l'émergence d'une nouvelle puissance rivale. Dans son fameux ouvrage « La guerre du Péloponnèse » écrit au 5e siècle avant notre ère, l'Athénien Thucydide raconte le déroulement de la guerre qui opposa la confédération de cités alliées à sa propre cité Athènes, à celle qu'avait forgé sa rivale Sparte. La montée en puissance d'Athènes, riche cité commerçante et démocratique, écrit Thucydide, ne pouvait manquer d'inquiéter les Spartiates, qui considéraient leur propre cité-État, militarisée et gouvernée de manière autoritaire, comme vouée à la domination du monde grec. Les dirigeants les plus avisés des deux puissances auraient bien voulu éviter une guerre dont ils devinaient qu'elle les ruinerait mutuellement, mais ils n'ont pu l'éviter. Alors certes, Sparte l'a emporté à la fin, mais tous les Grecs, en effet, ont été ruinés. Eh bien, toute l'histoire mondiale, montre Graham Allison, a été rythmée par ces conflits rarement évités entre puissances régnantes et puissances émergentes. Nous-mêmes, Français, qui dominions l'Europe sous Napoléon, avons été supplantés au cours du 19e siècle par la Grande-Bretagne, première puissance maritime de ce siècle-là. Et la Première Guerre mondiale elle-même trouve son origine dans le défi lancé à la Grande-Bretagne sur les mers par la flotte de guerre de Guillaume II, bien davantage que par le désir de revanche de la France. De même, aujourd'hui, la paix du monde dépend de la capacité des Américains à accepter de négocier avec la Chine un nouvel équilibre mondial.
Merci beaucoup Brice Couturier. Donc ce livre de Graham Allison, paru aux éditions Edil Jacob. Merci infiniment. On peut retrouver bien sûr cette chronique sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.